C'est au 7e festival du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, que l'on a pu voir non pas un, mais deux Takashi Miike. Blade of the Immortal, dont on a déjà parlé à Cannes, qui est disponible sur Netflix. Regardez-le, c'est plutôt bien.
C'est bien.
Et Elias.
Jojo Bizarre Adventure.
Chapter 1.
Daemon Irrecable, Chapter 1.
Alors, c'est quoi
Jojo Bizarre Adventure? Alors, Jojo Bizarre Adventure, c'est un manga dessiné par Hirohiko Araki depuis 87.
Un génie mental.
Exactement. Je considère directement par ça, qui est le plus grand manga jamais fait de l'histoire de manga.
Puis la trace de l'écriture.
Exactement.
C'est un des plus longs.
Et genre, en gros, la Bible a tout pompé sur Jojo, pour vous expliquer un peu à quel point c'est massif.
Qu'il y a des fans. Hein,
c'est ça. En gros.
Nous on aime juste bien.
En gros, Jojo Bizarre Adventure, c'est l'histoire sur plusieurs générations de la famille Joestar qui commence qui part sur plusieurs périodes de l'histoire mondiale, qui commence par l'Angleterre victorienne et qui en fait au final arc par arc, en fait chaque arc c'est un différent héros qui est un différent membre de la famille Joestar. Qui du coup va changer du coup d'aventure et de.
Surtout de Joestar.
Oui,
pas de Joestar, Joestar. Et qui du coup va vivre des aventures bizarres, d'où le nom du manga. En fait, et le film de Takashi Miike est une adaptation du 4e arc du manga, c'est-à-dire qu'il y a environ 40 tomes de manga qui se passent avant l'adaptation du film. Et qui va donc du coup décider d'adapter le tout début du 4e arc, qui est a priori le plus populaire au Japon. Aussi en France, de ce que j'entends mes compatriotes fans dire. Et du coup, c'est l'histoire de Josuke Higashikata, qui est le fils illégitime de Joseph Joestar, qui est le héros du 2e arc. et du coup, qui va, en gros, pour pas spoiler ceux qui ont vu que le film, être mis en place, être mis en situation, parce qu'il y a un serial killer qui tue des gens, au fait, dans sa ville, la ville de Morio. Et comme son papy est policier, du coup, il va s'impliquer là-dedans. Alors, et aussi, il y a tout un truc en fait sur les pouvoirs psychologiques qu'on appelle les stands, qui apparaissent dans la série, voilà, pendant le 3e arc Star Wars Crusaders, qui sont des espèces de personnages fantomatiques en fait qui apparaissent derrière les personnages, qui en fait ont des pouvoirs différents. Déjà, ils se battent en tant que tels parce que c'est des bonhommes, et en plus, ils ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, Josuke peut soigner
comme le Shaman King.
Voilà. En gros, Josuke peut soigner les gens. Jotaro peut arrêter le temps. Il y a un méchant par exemple qui contrôle l'eau, etc. Et du coup, par ses pouvoirs de manga absolument incroyables, il va y avoir des combats, et beaucoup de combats. Et Josuke va du coup venger des gens que le méchant a tués, et ça va se taper dessus. Et voilà pour le film.
Est-ce que vous avez compris de quoi ça parle, pour ceux qui ne connaissent ni le manga
ça parle de Joestar, moi c'est
un peu... Vraiment, c'est méchifre.
Bon, en tout cas, c'est quand même une saga...
C'est une saga absolument énorme.
Très complexe.
Énorme au point de vue physique, pas au point de vue...
Est-ce que c'est adaptable?
De base... Jojo Bizarre Adventure, n'importe quel fan dira que c'est un manga qui est totalement inadaptable.
Parce que je crois qu'il y a eu... j'ai jamais lu le manga, mais je sais qu'il y a eu des adaptations en OAV...
Il y a eu des OAV que je n'ai pas vu, pour être honnête, qui étaient dans les années 90. Il y a eu un très bon animé de David Production, qui a commencé en 2012, qui est toujours en cours, qui adapte très fidèlement, pour l'instant, du coup, les 4 premiers arcs du manga, et qui le fait extrêmement bien. Et du coup, il y a ce film Takashi Miike, mais en fait, le problème, c'est que Jojo, c'est quelque chose de, comme les autres, très bizarre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Je parle pas que des pouvoirs, je parle des situations, je parle des personnages, je parle des relations entre eux, je parle... Vraiment, pour vous dire un peu, à la fin de l'arc 4, on arrive à en fait, un mec qui vit dans une photo, qui tire un arc sur des gens pour leur faire apparaître des pouvoirs pour protéger son fils, qui est un tueur qui coupe des mains. En fait, c'est vraiment n'importe quoi, ce manga. Et en fait, un point qui est très jouissif, tellement c'est n'importe quoi. En fait, c'est un n'importe quoi qui n'est vraiment adapté qu'à... beaucoup de gens disent ça, à la bande dessinée. Des fois, on arrive dans un tel délire visuel, sonore dans l'animé, et graphique, et scénaristique, que ça devient vraiment en fait, une espèce d'émulsion, de bizarrerie qui vraiment fait marcher l'univers et fait marcher le manga. Mais en tant que film, dans ton film live, du coup, avec toutes les.
Pourtant, Takashi Miike, c'est un cinéaste bizarre.
Mais justement.
Justement,
pour en venir là.
C'est un good match à la base.
Voilà, en fait, ça aurait pu être un good match. Et j'étais. Pas forcément très motivé à l'idée qu'il y ait un film par rapport à tout ce que je dis, mais ça aurait pu marcher. Mais en fait, le problème, c'est que Miike, en fait, dans le film, je commence par le positif avant de partir sur le négatif, le film, honnêtement, est extrêmement fidèle, sauf la toute fin, mais bon, c'est pas très grave, extrêmement fidèle au manga, les personnages sont plutôt bien foutus, les acteurs, même si cabotine, manga, enfin, adaptation de manga oblige, marchent plutôt bien.
Surtout Nanako Matsu.
Évidemment. on a plutôt bien l'impression d'être transporté dans le monde visuel, etc. Enfin, pas forcément, mais un petit peu quand même de Jojo, etc. Les effets spéciaux sont pour une fois dans un film japonais pas trop dégueu, faut le dire. Mais le problème, c'est que Takashi Miike, qui est pourtant un réal plutôt délirant, entre guillemets, prend tout ça au premier degré absolu. Et Jojo est une série qui, du début à la fin, ne se prend jamais au premier degré. C'est une série qui part en couille totalement du début, enfin vraiment, c'est totalement revendiqué en fait. T'as beaucoup de choses, beaucoup de second degré, une espèce d'ambiance homo-érotique qui est totalement assumée. Tout ça qui est totalement en fait retiré du film, qui devient en fait extrêmement édulcoré, avec un espèce de rythme à la Blade Runner 2049, super lent, et qui du coup plombe beaucoup le film en fait. Et honnêtement, en tant qu'adaptation, c'est franchement assez... ça marche pas trop mal. En fait, quand on est fan du manga, qu'on est totalement excité à la moindre apparition d'un personnage ou d'un pouvoir spécial, ça marche pas trop mal, on dira. Mais j'ose pas imaginer la souffrance qu'elle doit être pour quelqu'un qui a pas vu le manga, parce que c'est déjà pas un super film quand on n'est pas fan. Il y a beaucoup de problèmes de rythme, beaucoup de problèmes de sens, beaucoup de problèmes d'explication de l'histoire.
Non, ça va pour...
Moi, je l'ai vu comme ça. Bon,
voilà. C'est surtout le rythme qui est totalement
voilà. Pourri. Et beaucoup de problèmes de second degré, parce que bordel, Jojo, un truc les principaux quand tu rentres dedans, c'est que tu te dis, putain, mais le réel déconne avec toi, quoi. Et là, pas du tout, c'est du premier degré total, et c'est un univers qui est tellement absurde qu'il ne marche pas avec le premier degré total que veut faire Takashi Miike. Et du coup, enfin...
C'est peut-être pas forcément du fait de Miike, hein, d'ailleurs, c'est peut-être de la production qui voulait
oui,
faire
peut-être
un
la,
film
peut-être de la prod.
Cool, plutôt voilà, bien fait en termes de standard, ouais. De ce qu'est un blockbuster japonais.
Et voilà, mais en fait, du coup, on est devant un film qui apporte rien à la série, qui apporte, je pense, rien à ceux qui n'ont pas vu la série. Et qui est voilà, enfin, honnêtement, il pourrait être pire, mais c'est ni fait ni à faire, quoi.
À part ce film en Espagne, c'est beau.
Ouais, mais c'est ni fait ni à faire, ça apporte absolument rien. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que quand on est fan de la série, qu'on veut se mettre, on marie avec des potes, on se peut mater ça, etc., c'est, voilà, c'est pas du temps perdu, mais c'est ni fait ni à faire.
Non, mais j'aime de toute bien manière, scène, ouais, j'aime bien c'était scène, pas à faire. C'est quoi. La scène de la Bad Company, justement, qui rappelle le Small Soldier, ça c'est bien.
C'est moins bien que Small Soldier, quand même.
Quoi ? Non ?
C'est beaucoup moins bien que Small Soldier.
Non ?
Et en fait, ça rend pas justice au manga parce que du coup, ça enlève tout ce qui fait le charme du manga, c'est-à-dire le rythme accéléré, les personnages qui sont super drôles, qui là sont tous super sérieux, le second degré, etc. Ça enlève tout ça. Et du coup, moi j'avais mal au cœur quand je sortais de la salle et les gens disaient ouais, franchement, c'était nul, etc. J'ai pas envie de voir le livre du manga, etc. En fait,
non, personne n'a dit je n'ai pas envie de lire le manga.
Nicolas
Le Merle.
Nicolas, si tu m'entends, je vais te défoncer.
Je sais.
Sur Twitter, c'est @delspooner.
Et non, mais pas que Nicolas, d'autres gens ont dit ça. Hein. Tu vois, qui connaissaient. Qui connaissaient pas et qui ont. Et qui disent que du coup, ça leur. En fait, ce film garde l'histoire, mais coupe tout ce qui fait le charme du manga. Et du coup, c'est très dommage et ça me rend un peu triste. Parce que j'aime beaucoup ce manga. S'il vous plaît, vous qui écoutez, lisez Jojo, ça vaut le coup.
Moi, voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que Miike, il a vieilli de ouf. Genre, il fait des travelling, qui sortent des plombes et tout, ça n'en finit plus. Et des fois, je sais pas ce qu'il fait, il laisse la caméra tourner et il coupe pas. Et ça dure très très longtemps.
Trop longtemps.
On sait pas pourquoi il fait ça, qui fait ça, quels sont leurs réseaux. Et ça continue pendant genre tout le film et c'est terrible en fait. Et à un moment, il y a un tel souci de rythme que même quand l'action elle revient à la fin où t'es censé être hypé et tout, ça tombe, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est terrible. Je sais pas, donc donnez à Miike moins d'argent alors s'il vous plaît. Au
mais
moins,
oui, c'est vrai, quand il a des gros budgets, c'était le cas pour Terraform Mars qui était un énorme budget, il n'arrive pas à faire quelque chose où il peut s'impliquer en fait. Moi, j'ai plus vu dans Blade of the Immortal, qui est quand même un gros budget, mais les enjeux sont ceux de l'adaptation de manga de l'Habitant de l'Infini, sont quand même beaucoup moins élevés. Il n'y a pas une communauté de fans telle qu'il y a pour Jojo. Du coup, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Quand il fait Jojo de Bizarre Adventures, j'ai l'impression que la production lui assène, voilà, il faut faire ça parce que tel personnage doit être comme ça pour les fans. Tel personnage, apparemment le mangaka aussi était assez...
Ouais, Araki était là sur le tournage.
Mais ce qui est fou, justement, en fait, c'est que c'est
et
pas,
du coup,
c'est que c'est pas le
cas.
En
termes de cinéaste, il lui reste plus grand-chose à faire, quoi. Et juste à mettre du rythme, ce qu'il arrive de toute façon pas, parce qu'il semble pas très inspiré.
De toute façon, Miike, le rythme, ça allait marcher en...
Mais si, oui, ça a marché avant.
Oui, ça dépend des films, mais Mickey a jamais été un grand metteur de rythme dans ses films. Hein. Enfin, même ses bons films, quand t'as rythmé.
Si, justement, ses anciens films des débuts des années 2000, fin des années 90.
Tu m'excuses, mais des Dora Life, tu t'éclates un quart d'heure, après tu fais chier pendant une heure et demie. Hein,
c'est pas fou.
Non,
il y a les 15 derniers. Je suis d'accord avec Elias.
Non,
tu t'éclates un quart d'heure, 5 minutes, et au milieu tu le fais chier pendant une heure.
Alors là, ça va partir sérieux.
Il y a la fin, et puis le reste, c'est un peu le nez.
Non, Dead or Alive, le premier, c'est un bon film de yakuza et de policiers, même sans la.
T'enlèves le premier quart d'heure et t'enlèves les 5 dernières minutes, c'est un super film de yakuza.
C'est un super film classique de yakuza et tout, c'est hyper efficace et tout. Et genre,
il n'y a pas de plan qui dépasse, hein, du coup, dans.
Alors que dans Jojo, putain.
Alors que justement, là, je sais pas ce qu'il a depuis qu'on lui donne plein de fric et tout. Il tourne et il fait des jolis plans. Des fois, il y a une direction artistique qui est bien. Genre, je crois qu'il y a du André Roublev à un moment dans la maison. Genre, non, mais c'est étonnant de voir ça. Et genre, il y a une direction artistique, quoi. J'adore, il y a vraiment des gens qui ont bossé.
Par contre, du coup, c'est tourné en Espagne. Il y a un super travail des décorateurs parce qu'ils ont collé des affiches japonaises partout pour qu'on ait l'impression que ce soit au Japon.
Encore plus, des affiches japonaises de concerts qui font des clins d'œil à des pouvoirs d'autres personnes. Parce qu'en fait, en gros, vous avez vu que le manga, comme le stand du héros s'appelle Chris Diamond, qui est une référence à Pink Floyd, tout le monde un peu a des stands, enfin, les stands en fait ont tous des noms dans leur cadre de groupes de musique, c'est-à-dire qu'il y a Red Hot Chili Peppers, il y a Aerosmith dans l'arc 6, etc. Et en fait, il y a plein d'affiches justement. C'est vrai, mais il y a aussi des stands qui sont un peu plus cool, hein. Là, c'est vrai qui vient en tête. Mais par exemple, tu as une affiche énormément des Red Hot Chili Peppers. Et du coup, ça fait pas. En fait, il y a un travail purement pour plaire aux fans. C'est-à-dire que t'as plein autour d'une phrase, des petites références, etc., des choses qui se passent avant, qui se passent après.
Mais c'est ça. Enfin, après, la question, c'est un film. Ok, pourquoi pas faire un film juste de fanboy.
Oui, mais pourquoi pas. Mais l'animé, cas, mais pas l'animé fait tout en mieux.
Les choses un peu délirantes dont tu parlais, le second degré, le érotisme, le kitsch, etc. Et qui semble faire le charme du manga.
Totalement.
Mais il y a une seule scène qui justement était symptomatique de ça, c'est la scène avec.
Quand il veut se faire un fist bump. Non, pas celle-là.
Oui, il y a ça, mais il y a Koichi Rose et justement l'autre. Et Nanakamatsu, justement, quand elle veut lui montrer ses ongles et tout. Et ça, c'était très Jojo dans le truc. C'était très fétichiste et tout, sur les ongles et tout, et blablabla. Et ça, justement, c'est l'esprit du manga. Mais ça dure sur une scène qui dure 1 minute 30 et c'est tout en fait.
Alors on va rapidement parler. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur.
Lisez Jojo.
J'ai pas vu.
Lisez Jojo parce que c'est déjà la bible à copier dessus.
Au pire, matez l'animé. Qui est déjà très bien. Voilà.
Très bien. Bon, je m'y mets ce soir. On va rapidement. Parler des films qui vont sortir en début d'année 2018, alors vraiment en 2 minutes pour présenter juste une personne par film. Il y a Fireworks qui sort le 3 janvier, Justin.
Oui, donc Fireworks, donc c'est un animé qu'on doit au même producteur que Your Name de Makoto Shinkai. Et donc, c'est pas innocent de le préciser parce que c'est vendu même au niveau de l'imagerie. Au niveau des designs, c'est quand même vendu pour qu'on associe les deux. Et justement, dans le film, on y pense, en tout cas beaucoup au début, ce qui fait un petit peu peur. Enfin, pas dans le sens où Your Name serait pas bien, mais dans le sens où on a peur d'avoir un copier-coller. Donc c'est l'histoire en fait de deux adolescents. Enfin, le début du film s'ouvre sur une scène un peu mystérieuse. Entre deux personnages qui vont se rencontrer par la suite, deux adolescents. Et donc ça raconte l'histoire d'un ado qui rencontre une autre jeune fille alors qu'il va avoir donc une célébration ce jour-là des feux d'artifice sur dans leur ville, dans leur petite ville. Et donc ce qui se passe, c'est que la jeune fille va déménager, ça se passe en cours de semestre, et elle est amenée à déménager, donc ce qui la déprime un petit peu. Et donc elle va choisir ce garçon. Elle va avoir un rendez-vous amoureux avec le garçon. Elle va profiter de ce rendez-vous pour fuguer, parce qu'elle est triste, elle souhaite pas déménager, quitter son école. Et donc ce qui se passe, Bon, il y a une espèce d'argument fantastique.
Voilà, il faut dire au moins qu'il y a un argument fantastique voilà. Qui va démêler.
Voilà, il y a un argument fantastique qui va amener à bon, je vais quand même le dire parce que sinon c'est impossible à résumer. L'argument fantastique, voilà, voisin de Un jour sans fin en quelque sorte, voilà, comme ça vous avez une idée, et qui va amener à rejouer à chaque fois la fugue possible ou de la jeune fille, soit seule, soit avec le garçon qu'elle va réussir à convaincre de s'enfuir avec elle. Et donc ce qui se passe, donc au niveau du ton du film, de l'atmosphère, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui fait la différence avec Your Name, justement, c'est que les enjeux restent très, enfin les péripéties restent très très intimes, très quelconques entre guillemets. Il n'y a pas de grandiloquence au niveau des sentiments ou au niveau des événements qui vont se dérouler. Ça reste voilà, des micros événements anodins qui vont à chaque fois mettre à mal chaque évasion des personnages. Et donc, quelque chose que je n'ai pas précisé au départ, c'est adapté d'un téléfilm de Shunji Iwai qu'il a réalisé, je crois, dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Et donc, ça se ressent vraiment dans le ton du film, justement dans ce côté anodin, mais qui capture vraiment plutôt la mélancolie adolescente. Le sentiment profond de cette romance impossible, donc à travers plein de petites situations, plein de petits moments intimistes, assez touchants tout au long du film. Et donc ça arrive à n'être jamais répétitif à chaque boucle. À chaque boucle, ça prend à chaque fois des directions différentes, tout en ne reprenant d'ailleurs jamais depuis le début. Voilà, ça démarre à un moment donné. Et quand il y a une boucle qui repart, ça repart depuis ce moment-là pour aller dans une autre direction. Donc c'est assez intéressant narrativement, dans la narration. Mais il y a des effets. Alors, il y a un usage de la 3D qui est parfois inventif, parfois un peu moins réussi tout au long du film avec des effets 3D. Mais c'est quand même pas inintéressant. Il y a quelques tentatives formelles plutôt bien. Et puis il y a une fin ouverte voilà, qui amène aussi un inattendu, une conclusion plutôt intéressante aussi. Hein. Donc allez-y, c'est plutôt bien, assez grand public, et puis pour les plus connaisseurs qui connaissent Shunji Iwai, je pense que l'atmosphère devrait vous accrocher aussi.
Étonnant d'ailleurs que ça sorte pendant les fêtes, du coup, mais que ça sorte.
Est-ce qu'il y a de la bonne musique comme dans Your Name?
Bah, il y a des chansons, il y en a qui... Oui, aussi, il bah, y a deux, trois chansons, donc...
Donc
dédicace à Elvire, si tu nous écoutes, il y a une... Le final est quand même un gros morceau sirupeux
de chargé d'émotions. Voilà, vraiment,
la larme à
l'animo.
Et le 3 janvier sortira également Le Lion est mort ce soir, Kefren.
Justement, Jean-Pierre Léo le chante dans le film. Et déjà, rien que ça vaut le coup d'aller voir le film, voilà.
Mais voilà, point fin du podcast, allez.
Bon, là, on a le fanboy de Jean-Pierre Léo.
Non, déjà, de filmer Jean-Pierre Léo, ça devenait un genre en soi du cinéma, genre la mort de Louis XIV, tout ça, c'est mignon, ils savent déjà.
TMTC.
Filmer Jean-Pierre Léo en train de mourir ou en train de jouer un acteur.
Oui, qui est en train de mourir.
Ça devient un genre du cinéma. C'est
à qui va réussir à filmer Jean-Pierre Léo en dernier en train de mourir.
Mais oui, c'est ça. Et du coup, mais Shunji Iwai, pas Shunji Iwai. Nobuhiro Suwa, il s'y prend bien ça. Et c'est assez méta, et c'est assez intéressant, assez mélancolique la mise en scène de Shunji Iwai. La mise en scène de Nobuhiro Suwa.
Putain, il va pas y arriver ce soir.
Mais genre.
Est-ce qu'il apprend l'anglais ou pas?
Non, mais genre. Suwa qui est un peu le plus français des réalisateurs japonais. En fait, c'est un réalisateur français maintenant, carrément, vu que ses deux derniers films sont en France, en fait, avec des acteurs français et tout le team. Et c'est en fait l'héritage de la nouvelle vague, en fait, Nobuhiro Suwa. C'est un peu le fils caché de Garel ou de Truffaut, un truc comme ça. Et
de René aussi, d'ailleurs.
Et de René, oui. Et surtout, oui. Et surtout de René, oui. Parce qu'il a fait un remake de Hiroshima, mon amour, qui n'est pas vraiment un remake, qui est une réflexion sur... Un remake de Hiroshima mon amour et de qu'est-ce que... Non mais c'est super intéressant, il y a Béatrice Dalle et tout, et justement ça, ça réfléchit sur ça.
Il y a une dernière fois en anglais. Tu sais vraiment comment on donne mon dans l'extérieur.
Et après il a fait M. Ozark qui est un drame familial japonais qui est aussi très beau, et d'autres films en France, dont j'ai oublié, Hippolyte et Yuki je crois. Oui. Ouais, et en 2002, et qui sont des films assez beaux, assez doux. Et justement, il est resté dans cette veine. Et cette fois, ça raconte comment Jean-Pierre Léo, qui, à la fin de sa vie d'acteur, doit comme ça affronter les fantômes de ses amours.
Il n'est pas si vieux, Jean-Pierre Léo, en vrai. Hein. Il est plus vieux que
Léo. Ouais, qui doit comme ça affronter ses amours passés, comme ça rechercher un fantôme de ce qu'aurait été son amour. Peut-être... le cinéma, sa carrière, je ne sais quoi.
Donc il joue Jean-Pierre Léo.
Ouais, oui.
Comme d'hab.
Oui,
Jean-Pierre Léo, il le
recherche comme ça dans le sud de la France, et il tombe et il va se réfugier dans une maison qui commence à habiter tel un espèce d'esprit qui est comme ça, et il rencontre des jeunes enfants qui étaient venus tourner un film, enfin qui justement cherchaient un endroit pour tourner un film d'horreur. Et il commence à transmettre sa passion du cinéma à ses enfants et les aide à faire leur film d'horreur, qui pour le coup est très intéressant, même dans la vie.
Bien. Et j'aime beaucoup Jean-Pierre Léo qui demande à être dirigé par des enfants, et du coup il joue comme s'il était dirigé par Jean-Luc Godard ou par un autre réalisateur ou par Truffaut. Et donc il leur dit non, mais là il n'y a pas assez d'indications, donc il joue pas la scène. Il y a des scènes assez drôles justement sur le jeu d'acteur et sur la transmission en fait de ces jeunes qui apprennent à faire du cinéma. Et au début, les premières images qu'on voit sont pas terribles hein, quand même de ce qu'ils filment.
Ouais, j'ai l'impression que tu pourras
le demander en interview du coup si Siwa leur a laissé une caméra et tourner, ou s'il a dirigé lui-même le film. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le film des enfants, et effectivement, moi j'aime beaucoup le petit film d'horreur qui monte à la fin et qu'on va projeter sur un drap comme ça.
Mais ça sent intéressant, ça ressemble même à du jazz franco, mais genre
avec des faux rapports,
du moyen jazz franco.
C'est disaster artist.
Non, jazz franco, vous savez, le vrai franco, ouais, ouais. Pas le celui des M.
Bah, sur Espagne, quoi.
Et
c'est moyen de jazz franco, c'est exceptionnel.
Mais oui, oui. Ouais, mais... Oui. et justement, et après, soit comme ça, continuer sa réflexion sur Jean-Pierre Léo, qui est personnifié par le lion, et qui justement chante aux enfants « Le lion est mort ce soir ». Et c'est un peu le thème, du film. Et en parallèle, on suit aussi l'histoire d'un garçon qui doit se reconstruire, je crois, après la mort de son père.
Ouais, ça c'est un... Bon, du coup, toute la partie Jean-Pierre Léo est vachement bien.
Oui, la partie Jean-Pierre Léo est bien, mais cette partie est...
Toute la dramatisation autour des personnages secondaires, moi, m'a semblé un peu...
Oui.
Voilà, un peu annexe. Finalement, quitte à faire un film sur Jean-Pierre Léo, et vraiment un film Jean-Pierre Léo movie, quoi, en fait, il suffit de le filmer.
Oui.
Il suffit d'être là, de le mettre dans une situation, de le mettre avec des gens, de le filmer. Et puis
c'est justement...
Ce qui concerne cette partie est vraiment...
Mais oui, d'ailleurs, c'est l'un des points faibles du film, justement.
Toute la scénarisation, la narration autour est un peu anecdotique, finalement.
Ouais. Ouais, et c'est l'un des points faibles du film, justement, c'est que... Jean-Pierre Léo est tellement le centre d'invité du film, c'est qu'en fait, tous les acteurs autour de lui jouent comme lui, ou soit tentent de les diriger comme Jean-Pierre Léo. Donc, ils parlent comme Jean-Pierre Léo, ou ils essayent de bouger comme Jean-Pierre Léo, et ça crée des situations assez bizarres, et des fois qui sonnent...
Parce qu'il n'y a que Jean-Pierre Léo qui peut jouer faux comme Jean-Pierre Léo.
Ça sonne assez faux. Tout le monde le sait, ça. C'est la base, le béaba du cinéma. Et justement, ça crée des situations assez bizarres, et c'est justement là le plus gros défaut du film. Mais après, l'ambiance solaire et du sud de la France, on se laisse porter comme ça par l'espèce d'errance fantomatique et cinématographique qui mène à Jean-Pierre Léo et à son acceptation de sa propre disparition.
Donc Le Lion va voir ce soir est en salle le 3 janvier. On va finir par un rapide tour de table sur, je sais pas, une attente, une réflexion sur le cinéma japonais.
Encore
plutôt une attente ou quelque chose que vous avez envie de voir donc cette année en 2018.
Peut donner un conseil aussi.
Ou un conseil, ouais, tout à fait. Mais on reste sur le Japon.
Star Wars.
Oui, ça, ça oui.
Star Wars.
Ah pardon, le Japon. Non mais ils sont au Japon aussi. Hein.
Gaël, tu veux commencer?
Justin.
Je réfléchis bien joué ça. Un conseil donc, parce que là depuis récemment est sorti le deuxième bouquin de Jack Adelstein, donc qui avait sorti un bouquin l'année dernière oui, donc sur son travail de journaliste donc au Japon, donc il est sorti une biographie de son travail de journaliste au Japon, et là il sort un deuxième ouvrage qui s'appelle Le dernier des Yakuza, où justement dans son premier livre, il y avait un passage où il recueillait les confessions d'un yakuza, enfin il était menacé de mort par un clan yakuza, et donc il avait eu plus ou moins la vie sauve en acceptant de recueillir les confessions, la biographie d'un yakuza, et donc ce qui donne ce nouveau bouquin qui s'appelle Le dernier des Yakuza, donc qui est sorti récemment, donc si vous avez bien aimé son livre précédent,
d'ailleurs qui sera adapté en film,
oui, donc j'ai oublié le
Tokyo Vice,
voilà. Donc si vous avez apprécié Tokyo Vice, si vous l'avez pas lu, c'est à lire aussi, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais donc là nouvel ouvrage, Le dernier des Yakuza, donc qui vient de sortir, très intéressant aussi.
Kefren,
moi j'attends le prochain film du réalisateur de Train to Busan, Yong Seo. Comment ça va, psychokinésis, un truc comme ça.
C'est japonais ça.
C'est coréen ça.
Ouais.
C'est pareil.
Ah mais c'est que japonais en fait.
C'est un peu la thématique de la soirée en fait.
Ah mais j'attends le prochain Kurosawa.
Elias.
Lisez Jojo.
Okay.
Mais j'ai eu le temps de réfléchir depuis et il m'a piqué l'idée. Enfin, effectivement, c'est Before We Vanish, le dernier Kurosawa, qu'on a un peu tous vu déjà. C'est formidable, comme d'habitude.
Quand il est au Japon, quoi, pas quand il est en France.
Bah justement, si, quand il est en France. Hein. Je risque de mettre deux Kurosawa dans mon top.
C'est vraiment le retour au Japon, du coup, avant que nous disparaissions, qui va sortir en avril, hein. C'est ça, Gaël ?
Je crois, en avril. J'avais vu ça.
Et du coup, pour Eastasia, il sera en top 2017 ou 2018 ?
On va le garder pour le top 2018. Déjà, on a Creepy et puis c'est quoi le
fond ? Non, on a Creepy.
On a Creepy de la chambre noire.
On a Creepy.
Ah, mais moi, je pense que je vais en mettre deux. Hein.
Moi, la
je
mets femme les deux. De la plaque argentique.
Et du coup, nous, on se retrouve. D'ailleurs, le top 10 d'Eastasia sera dévoilé au prochain podcast. Donc, suspense. En janvier. Voilà, on fera un podcast, donc
on s'en fout.
Un podcast qui sera consacré au bilan de l'année,
j'ai vu les quatre,
de l'année 2017. See you, Space Cowboys.
Goodbye.
Au revoir.